Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
En 2019, nous allons assister à la troisième édition, entre guillemets, de la charte du parc. Cette charte, on va voir à quoi elle sert, de quoi elle parle. Et pour ça, je reçois Jean-Luc Desbois, directeur du parc naturel régional du Massif des Vosges.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on va parler de cette nouvelle charte, mais avant qu'on vienne sur ce point un peu, alors pas forcément technique, mais particulier, est-ce qu'on pourrait refaire un point sur ce qu'est un parc naturel régional ?
Qu'est-ce qu'est un parc naturel régional ? Alors déjà, pour devenir parc naturel régional, il faut un espace particulier, un territoire particulier, plutôt rural, avec des patrimoines, on va dire, d'importance nationale, hein, donc des paysages, du patrimoine naturel, du patrimoine culturel, une identité spécifique. Donc là, dans le massif, c'est cette montagne, cette moyenne montagne savoyarde qui fait sa spécificité, sa géologie, ses paysages. Voilà, et puis il faut un projet de développement durable de ce territoire-là. C'est-à-dire qu'il faut vouloir le préserver à long terme. Et puis surtout, c'est une volonté territoriale. Il faut que les élus décident de développer un parc dans leur territoire. C'est vraiment les élus qui en décident. C'est pas comme un parc national où l'État décide d'eux. Là, c'est vraiment le territoire lui-même, les élus qui décident de développer cet outil, qui les aide à la fois à développer leur territoire, à la fois à le préserver sur le long terme.
Alors avant qu'on aille plus en amont dans qu'est-ce que cet outil, à quoi il va servir et comment on le crée, est-ce qu'on peut redéfinir déjà le territoire du PNR du Massif des Vosges ?
Alors c'est bien le PNR du Massif des Vosges et effectivement son périmètre, il a été choisi, décidé à l'échelle du massif. Donc ses frontières, elles vont jusqu'en bas des montagnes, dans les vallées. En fait, le massif, il est entouré de vallées glaciaires et le périmètre va jusqu'en bas. Donc, en fait, il y a 67 communes qui sont aujourd'hui dans le parc. Il y a 6 intercommunalités, communautés de communes ou communautés d'agglos qui sont concernées. Et puis une qui est proche de nous, c'est aussi Rumilly-Terre de Savoie, qui n'est pas directement classée, mais qui a une ville-porte et qui travaille avec nous. Donc, c'est bien toute cette montagne, cette moyenne montagne, de 2217 mètres jusqu'à 300 mètres en bas dans les vallées, et le territoire, c'est tout ça. De Annecy, Faverges, Eugine, Albertville, Chambéry, la Combe de Savoie, Chambéry, Aix-les-Bains, Rumilly, et jusqu'à Annecy. Donc c'est tout ce massif-là entouré par ces grandes vallées.
Donc on sort de la tête que le PNR, c'est juste nos montagnes du cœur des Vosges. Il y a bien, c'est beaucoup plus large que ça.
Absolument. C'est ces montagnes et ces piémonts. Et tout l'enjeu pour le parc, c'est de faire ce lien-là et d'avoir une vision, puis des actions à cette échelle de massif pour faire le lien un peu avec toutes les parties de ce territoire.
Donc d'où l'utilité d'avoir un outil justement pour pas oublier des personnes et des territoires en route. Avant l'outil, il y a certainement aussi quel est le rôle d'un parc, sur quoi est-ce qu'il va pouvoir agir ?
Les missions du parc, elles sont définies par la loi, hein, dans le Code de l'environnement. À la différence d'autres collectivités publiques, on n'a pas de compétences réglementaires obligatoires. Donc ça, c'est une spécificité, c'est que on nous délègue pas quelque chose de particulier. On a des missions, on n'a pas de compétences réglementaires. Alors les missions, c'est l'aménagement du territoire, dans le sens où on se pose la question où est-ce qu'on met les habitations, comment on utilise l'espace, cette ressource du foncier, comment on l'utilise. Du coup, on travaille avec les autres collectivités sur les documents d'urbanisme pour essayer de faire ça. On fait du développement économique et social du territoire. Ça, on est vraiment là pour le développement du territoire. Donc les économies, alors pour nous, elles sont plus rurales, hein, l'agriculture, la forêt, le tourisme, mais aussi les entreprises éventuellement du massif. On a une mission d'accueil du public. Accueil du public, éducation, recherche. Donc voilà, on accueille le public, mais dans l'esprit de le faire découvrir le territoire, le faire comprendre, dans l'esprit d'éducation aussi à l'environnement. C'est vraiment ça la mission. Et puis, la préservation des patrimoines. Alors, j'ai failli l'oublier, ça paraît... C'est notre cœur de métier quand même aussi, puisque pour être classé, il faut des patrimoines d'importance, donc il faut les préserver. Tous, les patrimoines naturels, géologiques, culturels, immatériels, les savoir-faire des gens. Tout ça, c'est le patrimoine du territoire. Et d'ailleurs, on fait du développement économique en servant de ces patrimoines-là, quoi, et cette ressource. Et puis enfin, une mission d'expérimentation. les parcs peuvent, mais ils doivent même essayer des nouvelles politiques, des nouvelles actions, s'appuient beaucoup sur la recherche scientifique pour faire ça. Voilà, donc un outil parc et un territoire de parc qui peut essayer des nouvelles choses, quitte à se tromper des fois, mais voilà, en tout cas, on doit d'essayer des nouvelles politiques, des nouvelles actions, qui demain peuvent faire... peuvent être transférés jusqu'au niveau européen. C'est le cas ce qu'on a fait, par exemple, en agroécologie sur les prés fleuris dans le massif des Bauges, qui est devenu une mesure dans la politique agricole.
À travers ce projet, cette initiative des prairies fleuries, on a décidé d'améliorer encore la biodiversité dans les prairies, de valoriser le travail des agriculteurs, de valoriser la qualité du fromage, et surtout, on a décidé de répondre aux attentes des apiculteurs, qui étaient demandeurs de ces fleurs dans ces prairies, et comment faire en sorte... qu'il puisse y avoir encore plus de fleurs dans les prairies pour les abeilles et pour faire du bon miel, eh bien, ça a été cette idée. On a fait en sorte de faire se rencontrer les agriculteurs et les apiculteurs. On les a mis aussi autour de la table et on se lance dans cette démarche-là.
Philippe Gamin, président du Parc naturel régional du Massif des Bauges, dans une vidéo de « On passe à l'acte ».
Et ce concours a été repris dans d'autres territoires, d'abord de parc, et puis après dans d'autres territoires hors parc. Et aujourd'hui, c'est devenu un concours national. Chaque année, les prix ont été délivrés. J'étais là il y a quelques temps, donc à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Et souvent, ce prix est remis par le ministre de l'Agriculture.
Le PNR, il fonctionne avec ses chargés de mission, avec les gens qui y travaillent, mais aussi avec les élus et avec les habitants. Et donc, pour pouvoir mettre tout le monde d'accord, étant donné qu'on n'a pas les mêmes vies, pas les mêmes territoires et pas les mêmes enjeux, on a cet outil dont on va parler maintenant, qui est la charte. Alors, à quoi est-ce qu'elle va servir, cette charte ?
Alors, effectivement, vous le disiez bien, c'est un outil qui est de volonté territoriale. Il faut passer de l'outil au projet, donc à un moment, il faut se mettre d'accord sur quel projet on veut mener ensemble sur le territoire. Donc ça, c'est l'objet de la charte. Donc en fait, on se met autour de la table, élus, habitants, citoyens, acteurs socio-professionnels, partenaires, institutionnels ou autres, tous les gens avec qui on travaille. Il y a beaucoup de monde avec qui on travaille sur toutes les thématiques qu'on a évoquées. Et on se met autour de la table pour définir à 15 ans, puisque c'est la durée d'une charte, quel projet on veut mener ensemble. Alors déjà, on se pose la question où en est le territoire. Donc on essaie de faire un diagnostic ou le remettre à jour quand c'est le cas d'une nouvelle charte. Où on en est sur le territoire, quels sont les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui va bien, pas bien. Et puis vers où il peut aller dans les 15 ans, en fonction de son environnement. Et puis du coup, collectivement, vers où on veut l'emmener, quoi. Des choses qu'on voudrait éviter, des choses qu'on voudrait développer. Voilà. Donc c'est un exercice pas facile parce que faut écouter tout le monde dans plein de domaines d'activité, et puis des domaines d'activité qui se croisent, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais en fait, le projet de territoire, c'est tout ça. D'abord, on écoute un diagnostic, après on écoute tout le monde, et on essaye de proposer des actions à 15 ans qui font le meilleur compromis, en tout cas qui dégagent un peu la volonté collective, quoi, du territoire.
Donc il y a déjà eu deux chartes qui ont été mises en œuvre, discutées et puis appliquées ou suivies par le parc. Mmh. La première, si je ne me trompe pas, était en 1995, la deuxième en 2007 et la troisième est pour 2019, donc pour cette année. Par rapport à celle de 2007, il y a eu donc un diagnostic qui a été fait, vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on tire comme bilan de cette charte numéro 2 déjà ?
Peut-être je peux revenir un peu juste à la première, quand même en 95, parce que c'est intéressant de voir l'évolution. Dans 95, le parc, il a été fait vraiment dans l'esprit de développer le territoire, qui était plutôt dans une phase de, alors c'est pas désertification, mais dans une phase où les gens partaient un peu. Il y avait quand même des problèmes économiques sur le territoire, bien qu'on soit au milieu des Savoies dynamiques. Ce territoire-là, il avait pas la même dynamique que les Savoies, donc c'était un peu plus compliqué. D'où la volonté du parc pour faire du développement plutôt économique, refaire venir des gens sur le territoire. Voilà, donc là, ça a été le temps où on travaillait avec, par exemple, l'appellation Tom des Bauges pour faire une économie agricole valorisée, retravailler sur le tourisme, les stations. Voilà, il y a eu pendant 12 ans un peu de développement comme ça, qui a plutôt bien marché parce que le territoire revit quand même plutôt bien. La deuxième charte, ça a été justement il y a de plus en plus de monde qui est revenu, l'activité se développe, il y a une pression vraiment des villes autour, enfin de l'activité économique autour. Du coup, les gens venaient un peu habiter. Donc ça devenait plutôt on utilisait l'espace pour construire des nouveaux logements. Sur les Piémonts, il y a une grosse pression. Et puis le territoire qui pouvait devenir plutôt une zone dortoir, quoi. Enfin voilà, on venait dormir, mais l'activité était ailleurs, quoi. Donc il y avait cet équilibre à trouver. C'était plutôt ça, quoi, un bon équilibre entre l'activité économique et puis la pression extérieure. Alors ça a plutôt bien marché aussi. On a le développement, l'urbanisme a été contenu un peu quand même ces années-là. D'un point de vue touristique, alors ça, du coup, on rentre dans le diagnostic un peu de la charte là de maintenant. Le diagnostic économique d'un point de vue agriculture, il est plutôt très bon. Les exploitations sont toujours là, se portent plutôt bien, font une agriculture de qualité, à la fois sur les produits, à la fois sur le respect de leurs espaces de production, quoi, sur l'agroécologie. Donc ça, c'est plutôt très positif, reconnu par les habitants et les professionnels autour. Enfin, c'est une économie agricole qui est reconnue vraiment pour sa qualité, qui est bien ancrée. Donc ça, c'est plutôt très positif. Sur le tourisme, un peu plus mitigé. Alors le territoire a un peu sorti, enfin a amélioré sa notoriété quand même sur ces 15 dernières années, sur 12 dernières années, mais c'est pas encore ça. On n'est pas une destination touristique très connue de niveau national, encore moins de niveau international. Donc c'est plutôt du tourisme de proximité. Donc c'est un peu plus mitigé parce qu'on a du mal de faire une vraie économie avec ce tourisme de proximité, quoi. Voilà, ça manque encore beaucoup d'organisation. Et puis la question des stations de ski de moyenne montagne, à cause du changement climatique, se posent des questions d'avenir avec des modèles économiques à réimaginer. Donc c'est un peu plus mitigé sur la question touristique.
Est-ce qu'il y a une réelle question justement sur cette dimension touristique? Est-ce que c'est une volonté issue du diagnostic de développer le tourisme, ou est-ce que le fait que les Bauches sont malgré tout un territoire préservé, un peu secret, ce ne serait pas une volonté de maintenir ça?
Alors le diagnostic, il ne définit pas de volonté, il dit ce qu'il en est. Mais après, du coup, on a écouté un peu le territoire depuis 6 mois, des habitants jusqu'aux élus, en passant par les acteurs socio-professionnels du tourisme aussi. Et effectivement, c'est une question un peu délicate parce qu'il y a des avis assez partagés. Donc à la fois, on sait très bien qu'il faut une économie touristique sur ce territoire. C'est un des piliers, hein, c'est un territoire attractif. Les gens qui sont venus, alors à la fois, il a une notoriété pas trop développée, mais à la fois, les gens qui y viennent, ils disent tous, vous avez un territoire magnifique, on s'y ressource, on reviendra. Le bouche à oreille, il marche beaucoup sur ce territoire. Donc on sait bien qu'on a ce potentiel d'accueil, plutôt d'un tourisme de pleine nature, de ressourcement, de bien-être, qui est très apprécié, quoi. Enfin, on le sent bien, tout le monde le dit. Donc il y a une volonté de développer ça par beaucoup d'acteurs. Et puis quand on écoute les habitants, ils disent oui, mais ou les autres activités économiques, oui, on a conscience de ça, il faut ça, mais quand même, ne faisons pas n'importe quoi. Gardons justement ce qui fait l'attractivité, ce caractère très préservé, avec des paysages magnifiques. Donc c'est un équilibre, à mon avis, très complexe. Et puis la cohabitation avec les autres activités économiques, l'agriculture, la forêt, même les autres activités industrielles éventuellement. Enfin voilà, il y a des enjeux de cohabitation très forts et un équilibre pas facile à trouver.
Donc ça fait partie un peu des diagnostics qu'on a pu avoir depuis la dernière charte, ou au moins les objectifs qu'elle affichait. Et ces enjeux-là et ce diagnostic ont servi de base à se dire, ces 15 prochaines années, donc la rédaction de cette nouvelle charte, de quoi on va partir? Et alors, comment ça s'est passé, justement? Une fois qu'on a ce socle-là, comment on fait pour les 15 prochaines années, on y va?
Donc, il faut qu'on aille voir nos habitants, nos acteurs socio-professionnels, nos élus. Alors, déjà, pour partager un peu le diagnostic, ce qui n'est pas évident, parce que, voilà, c'est multithématique. Il y a plein de chiffres, il y a plein de données, donc il faut qu'on arrive à le simplifier un peu, le partager, c'est pas le plus simple. En fait, on a fait des sessions de concertation sur le territoire, hein, au plus près qu'on pouvait de la population ou des acteurs. Donc on s'est déplacé sur le territoire, on avait 8 zones un peu identifiées pour que tout le monde puisse venir à moins de 25 minutes et essayer de participer. Donc partager un peu le diagnostic et essayer de voir si les différents acteurs ont la même vision que ce diagnostic quelque part, parce que là c'est des chiffres. Ok, c'est factuel, mais peut-être que les gens qui y habitent là ne le voient pas de la même façon, quoi. Donc, c'est aussi important d'échanger ça. Donc cette phase-là, les premières concertations, c'est voilà, quelle est votre vision du territoire? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on parle du même territoire, les mêmes choses, le même diagnostic? Et puis la deuxième phase, c'est plutôt du coup, comment vous le voyez évoluer? Quels sont pour vous les grands enjeux de ces territoires, de votre point de vue, et sur quoi il faut qu'on travaille collectivement, quoi, demain, quoi. C'est ça la deuxième partie. Puis la troisième, c'est concrètement, avec plus là les acteurs socio-professionnels, construire des actions qui répondent un peu aux attentes justement du territoire, quoi.
Parce que cette charte, je ne sais pas si on l'a vraiment précisé, mais ce sera quand même l'outil de travail pour les chargés de mission du parc. Et puis aussi quelque chose sur lequel se reposer quand on est habitant, quand on est élu, quand on est socio-professionnel.
Alors la charte, c'est bien le projet du territoire. Donc ça veut dire, là-dedans, il y a ce que va faire le parc, l'outil parc, là, le syndicat mixte du parc, qui agit avec ses moyens. Voilà, bon, donc il prend une part à ce projet, mais il ne fait pas tout. Et dans le projet, il y a aussi la part des autres, donc les autres collectivités, les autres partenaires, publics ou privés. Voilà. Donc, comment tout le monde s'implique un peu là-dessus. Et donc, c'est aussi un outil politique important de partage de ce que je veux le territoire par rapport aux autres collectivités locales, quoi. Que ce soit les départements, les régions, les intercommunalités. C'est aussi un document qui dit ce territoire-là réfléchit pendant une année ensemble. Et voilà un peu ce qu'il veut pour son territoire. Donc comment chacun dans ses compétences et politiques accompagne un peu ça et comment chacun porte ça. Voilà, donc c'est aussi un outil politique d'orientation à condition qu'il soit partagé, quoi, parce que sinon voilà. Donc, c'est un outil de travail pour le parc, mais c'est un outil aussi de volonté politique pour le territoire.
Et alors justement, si je reprends un peu le diagnostic qui a été effectué, il est évoqué à un moment une gouvernance qui semble s'essouffler et qui a repensé en particulier en lien aux habitants.
Oui.
Et alors ce lien aux habitants, vous l'avez dit, il y a eu une volonté de travailler avec eux, notamment dans les 8 sites décentralisés sur lesquels on pouvait aller participer. Alors maintenant, on n'est plus trop dans le suspense, on sait à peu près quelles orientations sont prises. Qu'est-ce qu'il en ressort alors de ces discussions qu'il y a pu y avoir avec les différents acteurs?
Alors ce qui est, moi je trouve très marquant... Tout le monde a conscience de la qualité de ce territoire, mais vraiment. On est fiers. Enfin, ça paraît, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est pareil hein, à l'échelle d'un massif comme ça, que tout le monde soit d'accord pour dire qu'on a quand même un territoire magnifique, mais vraiment. C'est beaucoup exprimé par la population à travers les paysages, parce que pour eux, ils traduisent la qualité du territoire sur plein de sujets par les paysages. Donc une attention particulière à ça, en disant qu'il faut garder ça, c'est un joyau. Voilà. Et c'est un joyau au milieu... on va dire d'un espace métropolitain en plein développement, en plein boom économique autour. C'est un peu bizarre quelque part, quoi. C'est un joyau un peu préservé au cœur d'une zone d'une dynamique économique assez fabuleuse, quoi. Donc cette conscience-là est complètement partagée et du coup c'est comment on trouve cet équilibre là demain entre ce territoire un peu remarquable et les autres espaces. Parce que c'est pas simple, quoi. Et le projet doit se faire à cette échelle-là. C'est-à-dire que c'est pas nous dans le massif, tout seuls qui définissons un projet. Non, c'est ce projet-là au milieu du reste, quoi. Et comment la solidarité entre tout ça. Et c'est ça qu'il faut travailler. Donc, il y a vraiment cette conscience-là, collective de tout le monde. Donc, déjà, c'est déjà beaucoup. Enfin, tout le monde aussi a compris, le dit. On est en pleine transition sur plein de sujets. Les attentes sociétales changent. La population du massif aussi. Elle est passée d'une population un peu historique du massif à une population très mélangée. Des gens qui viennent sur le territoire vraiment parce qu'ils ont envie d'y venir et vivre. C'est-à-dire qu'ils viennent pas pour y dormir, ils viennent pour y vivre. Essayer d'expérimenter une nouvelle vie. Voilà. Donc il y a cette cohabitation et cette demande sociale un peu nouvelle et différente. À créer des attentes sociales globales un peu nouvelles sur l'alimentation, sur la façon de travailler, de se déplacer. Voilà, donc et puis le changement climatique aussi qui est très partagé. Aujourd'hui, il y a plus de tout le monde dit oui, ben on est les premiers touchés, les Alpes du Nord, c'est plus 2 degrés chez nous alors que c'est plus 1 ailleurs.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses, il est grand temps faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Retiens, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'une rivière,
écoute le couler de l'eau sur la terre.
Dis-toi qu'au bout,
que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car un lopin de terre,
une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.
L'importance de la préservation de notre espace naturel chanté par trio avec l'hymne de nos campagnes. Et nous, on continue à préserver l'espace des Bauges et à comprendre ce qui s'y passe avec Jean-Luc Desbois, directeur du parc naturel régional du Massif des Bauges, qui nous parle de la prochaine charte qui sera mise en œuvre pour les 15 prochaines années.
Voilà, donc on a un territoire encore préservé en pleine transition. Et quelque part, ces atouts-là permettent peut-être d'avoir une transition un peu particulière autour. Donc c'est ce qui ressort beaucoup. Et du coup, ce qui est demandé, c'est de se préoccuper de nos ressources, quoi, beaucoup. Alors la qualité, c'était déjà ça, préserver la biodiversité, préserver les paysages, la qualité de l'eau, tout ça, c'était bien connu. Mais ce que les gens disent aujourd'hui, il faut rentrer un peu par les ressources, quoi. Quelles sont nos capacités demain à faire société sur ce massif en fonction de nos ressources en eau, nos ressources forestières, nos ressources énergétiques et tous ces conflits d'usage entre ces ressources qui sont de plus en plus forts et on le sent. Ça aussi, tout le monde le dit. Voilà, y a de la pression sur toutes ces ressources et sur leurs usages, quoi. Donc. Du coup, ce projet parc un peu particulier peut être là pour faire le lien entre les agglomérations autour, ce pôle métropolitain à cette zone-là, poser les bonnes questions sur les ressources et être un outil de conciliation et de concertation autour des activités de demain et sur la base de l'utilisation des ressources, quoi. Ça peut être un peu ça. Alors c'est un peu ça, c'est de la stratégie. Après, il y a des actions qui sont attendues, évidemment. Mais...
Alors justement, si on en arrive au mode opérationnel du parc, parce que là, en effet, cette charte, c'est plutôt un outil stratégique, c'est un outil partagé d'envie commune. Moi, quand j'habitais à Chambéry et que je venais au cœur des Bauges, pour moi, le parc, c'était celui qui balisait les sentiers et puis qui m'apprenait à faire la différence entre un tétra et un bouquetin. Et en fait, il n'y a clairement pas que ça du tout. On pourrait peut-être partir des différents pôles, justement, d'action du parc. Quels sont les chargés de mission? Sur quoi le parc va travailler, travaille déjà et va travailler sur cette nouvelle charte? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme action?
Alors déjà, on travaille sur les économies un peu piliers du rural, hein, donc sur l'agriculture, ça je l'ai déjà dit. On fait beaucoup de choses, on l'a toujours fait sur l'agriculture. Alors comment on travaille ? Je vais vous donner un exemple sur le pastoralisme, parce que je trouve qu'il est un peu parlant. Le parc, il travaille à plusieurs niveaux. D'abord, il définit des grands programmes d'action à l'échelle du massif. Alors quand je dis il définit, il est construit, et il va chercher des financements. Il répond à des appels à projets. Et par exemple, sur le pastoralisme, donc ça couvre tout le territoire, et c'est des aides à l'investissement pour les alpagistes. Derrière ce programme-là, il y a ça. Donc on construit ce programme pour trouver des aides, pour aider au chalet, à construction de chalets d'alpage, à une nouvelle piste pastorale, des salles de traite, enfin, etc., les points d'eau, tout ce qu'il y a besoin pour développer l'activité économique en alpage et maintenir cette activité-là. On fait ça, donc ça c'est à l'échelle grand programme, et puis après on va accompagner sur des projets plus particuliers, les collectivités, des porteurs privés, où est-ce que je mets ma piste pastorale pour conserver le paysage, combien ça va coûter, quelles sont les contraintes réglementaires, donc on accompagne le maître d'ouvrage à construire son projet concret. Donc il y a les deux niveaux de grand programme, et puis plus opérationnel pour la réalisation des projets. Et puis, si on reprend l'exemple du pastoralisme, donc là, je parlais de l'économie, puis en même temps, on va se poser la question comment améliorer les pratiques environnementales de l'activité qu'on aide économiquement. Et sur le pastoralisme, par exemple, on met en place des plans de gestion pastoraux, co-construits avec les agriculteurs concernés, et où on dit, voilà, les zones à enjeux environnementaux, de biodiversité, comment on peut améliorer la conduite du troupeau, pour des questions environnementales cette fois. Et on travaille avec eux. Alors, c'est pas imposé, mais c'est co-construit. Voilà. Donc, on travaille toujours sur les deux piliers, développement économique et préservation des patrimoines au sens large. On fait pareil sur la forêt. On a beaucoup accompagné le développement de pistes forestières pour aller mobiliser plus de bois en forêt. Il y a des capacités encore dans le massif. On exploite à peu près 20% de la croissance annuelle. Donc, il y a encore un peu de temps, un peu de marge pour aller sortir du bois. Mais il faut aménager un peu la forêt, faire comprendre qu'il faut la faire aménager, c'est pas évident. Les pistes, ça se voit. Les coupes forestières aussi, ça se voit. Donc il y a aussi la question de pédagogie derrière tout ça. Donc on explique aux visiteurs, aux élus, que l'économie forestière, l'exploitation forestière, elle engendre des choses.
Comment couper puis débarder un arbre ? Réponse lors de la 5e édition des journées de découverte des métiers de la gestion et de l'exploitation forestière durable.
C'est pas un arbre très très vieux apparemment.
250 jeunes ont participé fin septembre à cet événement dans le parc naturel régional des Bauges.
Et de la même façon, on va chercher des financements pour construire des nouvelles pistes, des plateformes de stockage, enfin voilà. Donc là, on est vraiment sur le concret de construction des projets et apport de financement sur le développement économique de certaines filières. Quoi.
Donc là, on est clairement sur ce qu'on disait tout à l'heure que le parc n'était pas, c'est-à-dire c'est pas une mise sous cloche d'un territoire, c'est pas développer un folklore autour des petites fleurs et des petits animaux. Il y a vraiment la dimension humaine d'un territoire vivant qui est au cœur des préoccupations. Et dans ce que vous êtes en train de décrire, il y a ce qu'est un parc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion de contraindre, mais de convaincre et d'accompagner. Vous arrivez à faire, j'imagine, beaucoup de médiation. C'est du lien entre les différents acteurs du territoire. Et ça, on ne l'a pas forcément évoqué, c'est le fonctionnement du parc qui... Qui décide ?
Alors, le parc, c'est un syndicat mixte. Donc, c'est un regroupement de collectivités publiques. Donc, dedans, il y a la région, les deux départements, à travers du Conseil Savoie-Mont-Blanc, toutes les communes, les civils portes. Tout ça, ça compose le parc. Et on espère, d'ici 2020, les intercommunalités qui rentreront dans le jeu du syndicat mixte. Donc c'est bien une collectivité publique et c'est toutes ces personnes-là. Donc il y a des représentants de toutes ces collectivités et c'est collectivement qui décident du budget, de l'équipe, des programmes d'action, des thématiques qu'on développe. Ça, c'est la structure juridique. Mais sur notre façon de travailler, derrière chaque projet, en fait, on va chercher, on met en place un groupe de travail, un groupe projet, un comité de pilotage, on appelle ça comme on veut, peu importe. La question, c'est que autour d'un projet particulier, on met les acteurs concernés autour de la table. Et qu'ils soient publics, privés ou sociétés civiles. et pour justement concerter, trouver les meilleures solutions ensemble, quoi. Voilà. Alors, on n'est peut-être pas encore au niveau de l'intelligence collective sur la construction des projets, mais en tout cas, notre volonté, notre façon de travailler, c'est d'élargir, quoi. Alors, du coup, vous dites, on fait pas que préserver le tétralyre, mais on le préserve un peu aussi. Par exemple, dans la question de la préservation du tétralyre, on met autour de la table les chasseurs, les agriculteurs, les stations de ski, les associations de protection de la nature, les élus, les pratiquants de sport de pleine nature, tous ces gens qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter ensemble autour d'un projet. Mais nous, on fait tout le temps ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on réussit et que ça s'installe sur le long terme. Alors c'est ingrat, hein. C'est ingrat parce que c'est pas facile, mais je trouve qu'on y arrive bien. On est plutôt reconnu sur notre capacité de médiation, de conciliation. Mais c'est ingrat dans le sens où en fait justement on est un peu en amont des projets. On les discute beaucoup, on les prépare, on amène des financements. Souvent on les porte pas nous. C'est d'autres maîtrises d'ouvrage, privées ou publiques. Et du coup, on disparaît un peu, on nous oublie un peu dans le travail amont qu'on a fait. Et voilà. Et du coup, les gens se disent, mais à quoi sert le parc, quoi, en fait. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que s'il n'y avait pas eu toute cette phase amont, peut-être que le projet, il n'aurait pas pris la meilleure direction, ou en tout cas, il ne serait peut-être même pas sorti, ou il y aurait eu des conflits. Ça. Mais voilà. Donc du coup, on ne sait pas trop ce travail amont, on l'oublie, et ce n'est pas facile pour nous de... Alors peut-être qu'on n'est pas assez bons communicants.
Mais justement, dans cette appropriation de on peut dire que c'est un outil commun, le parc, pour les acteurs du territoire, comment on pourrait réussir justement à se dire le parc, c'est pas qu'une maison du parc qui est au Châtelard, avec des gens qu'on voit pas trop et puis on sait pas très bien ce qu'ils font à l'intérieur. Est-ce qu'en tant qu'habitant du territoire, on a aussi une capacité à pouvoir s'investir ou c'est trop compliqué?
Alors, on a, ces dernières années, travaillé avec des commissions qui étaient ouvertes à tous, ceux qui voulaient y participer. Il y avait quelques habitants qui y participaient. Elles ont plus ou moins bien fonctionné et puis elles sont plus ou moins bien connues. Donc c'est pas un système encore qui est très satisfaisant. Donc on est en train de réfléchir dans le cadre de la révision à une nouvelle gouvernance pour le parc qui intégrerait, c'est un souhait des élus, hein, la participation des citoyens. Alors à la fois sur la réflexion des actions, des projets, etc., plus du pilotage global, quoi, mais à la fois sur nos actions. Donc là, on a déjà, par exemple, entamé des chantiers participatifs. On l'a fait sur le pastoralisme avec le Verâtre, où on invite les habitants. On l'a fait sur de la restauration de petits patrimoines bâtis, où il y a des habitants qui viennent avec nous. Donc c'est aussi par l'usage et par la pratique qu'on peut faire le lien plus concrètement sur des opérations avec les habitants. Ça, c'est une piste qu'on a déjà ouverte, mais qu'il faudrait renforcer. Et puis aussi, peut-être aller plus loin dans le sens carrément accompagner des initiatives citoyennes. C'est-à-dire qu'au-delà d'accompagner des projets publics de collectivités, c'est d'aller accompagner des initiatives citoyennes. On a qui ont peut-être besoin d'aide financière, juridique, juste de mise en lien. Ça reste à construire, mais et de les rendre aussi plus visibles. Et on a déjà entamé quelque chose en mettant en place une plateforme des initiatives citoyennes. Alors c'est juste un outil de communication et de recensement un peu de ce qui se passe sur le territoire, avec la volonté de montrer qu'il y a des belles choses qui se passent, pas que dans les collectivités et dans le domaine classique des entreprises, mais aussi des citoyens.
Comme je disais, c'est aussi pour nous d'aller chercher, de comprendre à travers ces projets-là, parce que finalement, ça va être révélateur, hein, révélateur des désirs et des besoins.
Philippe Gamin, président du parc, pour On passe à l'acte.
Pourquoi, à un moment donné, des citoyens prennent l'initiative de créer un projet? Parce que, peut-être, et aussi, ils ne sont pas satisfaits de ce que leur apporte aujourd'hui la société institutionnelle, l'État, leur commune, leur intercommunalité, leur département, leur région. Et du coup, ils se disent, finalement, moi, ça me va pas et je prends cette initiative-là. Et donc, je vais avancer seul avec mes voisins où on va créer un collectif et on va se lancer. On n'attend pas que... On n'attend pas que ça tombe du public, des institutions publiques. Et ça c'est vraiment beau. Et c'est ça. Et si on comprend ça, si on voit ça, là, on anticipe demain.
Donc ça, c'est pour les rendre visibles et mettre en lien. Mais il faut aller plus loin, quoi. Comment avec ces initiatives-là, on peut construire des actions ensemble aussi.
Il y aurait une volonté de double flux, en fait, de, oui. de pas seulement d'avoir des actions du parc auxquelles les citoyens peuvent prendre part, mais également une initiative citoyenne qui peut remonter pour un appui du parc. Ouais.
Donc c'est un peu ambitieux parce qu'on est, quand même pas beaucoup, on est 25 au parc et il faut... en fait, il faut trouver le bon équilibre entre continuer de faire des actions quand même un peu concrètes où c'est là où aussi on est visible, c'est ce que je disais, et à la fois continuer notre animation de territoire, plus avec les habitants. Voilà, donc il faut trouver ce bon équilibre là.
Mais ça peut être, et c'est certainement tout l'enjeu de cette nouvelle charte, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une liste de bonnes intentions où on dit qu'on... qu'on veut sauver les dauphins, pas forcément parce qu'il n'y en a pas dans les Vosges, mais toujours garder à l'esprit qu'en fait c'est pas sont pas les la vingtaine de salariés du parc qui ont décidé de poser des intentions, mais que c'est bien quelque chose qui est partagé par les citoyens, les élus, et pas que les élus locaux. C'est ça, ça va beaucoup plus loin dans la gestion de la charte. Elle devrait être entérinée par plus haut que juste les Vosges, c'est ça?
Oui. Donc en fait le projet est construit localement quand même. Ça, c'est la volonté du territoire, mais par contre, il est effectivement approuvé à un niveau plus haut, puisque la région, qui est collectivité de tutelle des parcs naturels régionaux, décide aussi, doit valider ce projet de charte et décide de la création et de la revalidation des parcs. Hein, donc, c'est à elle de dire des choses aussi là-dessus, mais aussi les niveaux nationaux. Puisque dans l'année qui vient, une fois qu'elle a écrite, il faut l'avis de tous les ministères, l'avis du Comité national de protection de la nature. Enfin, il y a plein d'avis à recueillir là-dessus. Avant, quand même, c'est là où ça revient sur le territoire, de proposer ce projet à la population par une enquête publique. Donc c'est là où le projet il peut être partagé aussi avec l'ensemble de la population. Et la population peut se l'approprier, faire des remarques, etc. Donc ça, c'est dans un peu de temps, parce qu'il faut encore 18 mois pour recueillir l'avis du niveau national avant d'aller retourner en enquête publique. Mais, c'est bien une labellisation nationale d'un projet local.
Et alors, étant donné qu'il y a la nécessité d'avoir approbation des gens du territoire et des élus du territoire, est-ce que c'est envisageable que les limites du parc soient fluctuantes, que certains élus souhaitent y entrer, que d'autres territoires souhaitent en sortir? C'est des choses qui peuvent arriver?
Alors, oui, c'est possible. Quand on lance la révision de la charte, on définit un périmètre d'études. Donc le périmètre d'étude, il a été légèrement élargi par rapport aux limites existantes. Je dis légèrement parce qu'en fait, la volonté, c'est la cohérence géographique de massif. Donc voilà, on a ajusté des petites choses sur les piémonts pour pouvoir intégrer quelques espaces qui étaient en piémont et intéressants d'un point de vue patrimonial. Voilà. Donc ça a été modifié un tout petit peu, mais au final, effectivement, c'est les communes qui décident de rentrer ou pas. Ça, on saura qu'en 2022, si le projet est bon, voilà, il y a des nouveaux élus qui vont arriver entre-temps. Donc, ce sera à eux de dire s'ils veulent porter ce projet collectif ou pas, au final, quoi. Mais c'est bien eux qui décident d'y rentrer. Par contre, une fois qu'on y est rentré, on est engagé à 15 ans. Ça donne un peu de visibilité.
Et alors, ce projet de territoire, il s'inscrit quand même dans quelque chose qui est, enfin, dans un contexte qui n'est pas neutre. On a quand même des enjeux importants. On a un changement climatique visible, on le disait tout à l'heure, plus 2 degrés en 60 ans sur les Alpes du Nord. On a moins 25% des débits printaniers du Chéran qui sont constatés. On a un recul de la limite pluie-neige de 300 mètres. On a moins 20% de cumul d'enneigement. Donc on a quand même 2-3 choses qui font que, même si ça sert à rien de s'affoler, je suis pas sûre, mais d'être pessimiste, on a quand même un enjeu fort. Cette charte, elle s'inscrit dans ce contexte-là et elle s'appuie sur des moyens qui doivent être mis en œuvre pour essayer de les contrer. Si on devait faire une conclusion là-dessus, comment est-ce que nous, en tant qu'habitants des Bauges et donc premiers spectateurs de ce qui est en train de se passer, on peut alors soit appuyer le parc, soit s'investir, soit créer quelque chose ensemble? Comment est-ce qu'on peut imaginer un projet de territoire au-delà de la charte?
Ah, oula, quelle question difficile. Il y a une demande déjà assez forte dans les discussions qu'on a eues là-dessus sur le changement climatique, c'est de le rendre visible, justement, auprès de la population et peut-être des décideurs, parce qu'en fait, on en parle beaucoup. Mais finalement, au quotidien, peut-être qu'on ne le palpe pas assez, quoi. Alors, vous avez évoqué des chiffres qui sont réels, mais concrètement, dans le paysage de tous les jours qu'on croise et tout ça, est-ce qu'on y prête attention et puis l'enjeu du suivi à long terme de cette évolution-là. Donc, peut-être là, il y a du suivi participatif, justement, pour que la population comprenne bien ce qui se passe. Voilà, il y a des solutions comme ça possibles. Alors après, pour aller plus vers le changement, il y a des choses sur... Là, si on revient plus vers le cœur de massif, sur la mobilité, comment on peut améliorer cette mobilité, au moins dans le cœur de massif. Voilà. Après, vers l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On se pose la question, mais voilà. Donc ça, il y a peut-être des choses à faire ensemble aussi. Comment on relie le besoin des habitants à ce qu'on pourrait développer, parce que c'est pas toujours fait, en fait. Voilà, il y a des grands des projets de mobilité qui arrivent, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment allé voir les habitants? Donc on a peut-être cette fonction d'aller voir un peu plus les habitants dans la continuité de ce qu'on a fait sur la charte, quoi. C'est, voilà. On n'avait pas assez cette habitude-là. Et puis après, le parc, il a la force du projet parc n'aura que de la force du soutien de ses habitants, en fait. Hein, voilà. Donc, ce qu'on peut faire ensemble, c'est soutenir collectivement ce projet. S'il est soutenu, il aura sens, il sera repris, aidé par d'autres. Voilà. S'il n'est pas soutenu, voilà, ça s'arrêtera pas là. On fera des choses, mais je veux dire, il n'a de la force que de ses habitants et de ses élus, en fait, le parc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut faire ensemble, c'est ça. Mais il faut qu'on aille un peu plus vers les habitants, nous. J'ai pas parlé de toutes les actions individuelles quotidiennes, mais je pense que beaucoup de gens le savent déjà, ce qu'ils peuvent faire pour le réchauffement climatique. Et je pense justement, collectivement, c'est au-delà de ça qu'il faut qu'on aille, quoi, sur des projets un peu plus collectifs, quoi, justement.
Et avec l'enjeu aussi de vivre en intelligence sur un même territoire, avec des activités variées.
Vous avez raison, l'autre rôle du parc important sur ces questions-là, c'est de mettre en discussion les différents secteurs d'activité. Effectivement, parce que là, je parlais de la mobilité, par exemple, comme exemple, mais si on parle de mobilité, il faut qu'on parle de mobilité aussi avec les activités économiques de transport, avec les mobilités touristiques. Il ne faut pas qu'on parle que de la mobilité, par exemple, des habitants du cœur de massif. Hein, donc notre rôle, c'est peut-être de mettre en lien ça. Et puis si on parle de l'usage de l'eau, un autre exemple qui est ressorti beaucoup dans les discussions, de plus en plus de pression sur la ressource, de moins en moins d'eau présente sur le massif. C'est pas comment on traite la question de l'eau potable d'un côté, comment on traite la question de l'eau en agriculture de l'autre côté. C'est comment on traite la question de l'eau ensemble. Voilà. Et le parc, il a sûrement ce rôle-là, qu'il a déjà un peu, hein, mais plus fort, de mettre en lien les différents secteurs d'activité sur une question donnée de ressources et de changement climatique. Parce que c'est pas en cloisonnant qu'on y arrivera, en fait. Voilà. Donc on a sûrement ce rôle un peu important.
Et donc on peut dire que nous, on a notre rôle de citoyen de se dire que sur au moins les 15 prochaines années, on a une capacité et une collaboration possible entre citoyens, parcs et collectivités.
Oui, alors il faut venir, ce que je dis aussi, il faut... Nous, on a besoin d'aller vers les habitants parce qu'on n'y est pas allé assez. Voilà, on nous l'a dit, on l'a entendu. J'espère qu'on y arrivera. C'est pas le plus simple, hein, de mobiliser les habitants. Mais il faut aussi que les habitants viennent vers nous. C'est-à-dire, voilà, faut aussi pousser la porte, venir dire à nos élus peut-être que ça va pas, qu'ils sont pas... Enfin, faut oser utiliser aussi cet outil parc parce qu'il est aux habitants, quoi, avant tout. Donc, voilà, il y a une distance peut-être historique qui... Mais le parc, c'est le territoire et ses habitants. Donc, et on dit un peu la même chose aux communes, d'ailleurs. Il y a des communes qui nous disent, oui, mais... on n'a pas fait assez de choses ensemble. Mais venez prendre la ressource du parc pour faire des projets. Voilà. Et si vous venez nous chercher, on va avec vous, quoi. Et effectivement, vu qu'on est une petite équipe quand même, malgré tout, hein, on n'a pas la capacité d'aller voir tout le monde pour dire est-ce que vous avez un projet sur ci, sur ça. Enfin, on le fait un peu. Mais c'est aussi au territoire de venir vers nous en disant moi j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider, quoi. Peut-être oui, peut-être pas, ça dépend du temps, du financement, du domaine d'activité. Mais c'est aussi ça, venez sonner pour voir si on peut accompagner l'un ou l'autre des projets.
Alors est-ce qu'on a le droit de conclure par « Emparez-vous du parc » ?
Oui. Et d'ailleurs, on appelait les concertations autour de la charte « À nous le parc ». C'était vraiment ça. Il faut que le territoire reprenne cet outil parc pour lui et qu'il en fasse ce qu'il a envie d'en faire. S'il pense que le parc et l'outil est important pour ce massif des Bauges dans le contexte actuel, il faut qu'il s'en empare et en faire quelque chose. Allez, voilà. Donc on est à la disposition du territoire.
C'est fantastique.
Oui.
Merci Jean-Luc Desbois.
Merci à vous, au revoir.
Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.